freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.
Ganz Europa schaut da drauf.
Ich kämpfe in der Lausitz gegen den Kohleausstieg.
France Inter, le 18-20. En direct de Berlin.
Voilà, toujours notre petite balade sur la Spree. Nous sommes en train de revenir doucement vers l'Embercadère. La nuit tombe sur Berlin. C'est Berlin by night. Alors, il commence à faire un peu froid, je ne vous le cache pas. Mais on a des couvertures. Voilà, vous savez tout. Mais nos invités sont restés avec nous pour cette deuxième heure. Cela dit, à moins de partir à la nage, il n'y avait pas moyen qu'elles s'en aillent. Donc, on est ravis de les avoir toujours, toutes les trois, avec nous autour de cette table, sur notre petit bateau, le Sylvia. Et c'est vous qui faites le programme de cette deuxième heure avec vos questions, vos interrogations sur ce drôle de système de coalition allemand, sur l'Europe aussi si vous le souhaitez. Parlons de ce qui nous rapproche de ces Allemands qui ont voté, nos différences aussi, peut-être les différences entre nos verts et leurs verts qui sont importantes. À vous de jouer, vous êtes déjà nombreux et c'est bien, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Fabienne Santès, le 18-20.
Et bienvenue à Berlin, Guy, c'est vous le premier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, je voulais faire part d'un constat qui est celui de... actuellement, nous avons un alignement des planètes très favorable à l'Europe, c'est-à-dire bientôt en janvier, quand Mme Merkel partira, ce sera le président français, et la nouvelle coalition, et surtout SPD et Verts, est très européenne, alors que, bon, on sait très bien que la CDU avait une politique assez neutre. Donc, je pense que pensent vos invités, est-ce qu'il ne faut pas profiter de cette occasion qui ne se représentera peut-être pas de sitôt, et de faire vraiment une force européenne à tout point de vue, parce que moi j'ai 79 ans, j'ai connu De Gaulle à Denauer, et depuis, ben, ça ne va pas dans le bon sens. Il faut raffermir l'axe Paris-Bonn, et en plus donner, disons, beaucoup de gages aux autres pays aussi, voilà, puis faire une politique commune un peu économique, santé, fiscale.
Merci beaucoup pour votre question, Guy, pour cette entrée en matière. Je vais vous représenter les invités qui sont autour de cette table. Amalia Meyer est toujours avec nous. Amalia, bonsoir. Rebonsoir. Vous êtes toujours journaliste politique pour le Der Spiegel. Claudia Meyer est là également, directrice de l'unité de la sécurité internationale et de la défense du think tank SWP. Claire Demesmet est également aussi chercheuse, au centre Marc Bloch. C'est avec vous qu'on va commencer peut-être pour la question de Guy. Claire Demesmet, est-ce qu'il y a un alignement de planètes pour l'Europe, comme le dit notre ami Guy?
Alors, j'ai envie de dire, ça dépend quand on aura un gouvernement fédéral. Et ça, c'est la question qui est loin d'être réglée. On a eu des élections, on n'a pas de gouvernement. Ça peut prendre du temps. La dernière fois, ça a pris 5 mois. Donc là, je pense que ce sera quand même un petit peu plus rapide. Mais même si on a un gouvernement fédéral en janvier, il ne faut pas oublier que la France est déjà en période électorale ou préélectorale. Qu'en janvier, on aura la présidence française du Conseil de l'Union européenne avec peut-être des revendications un petit peu plus fermes vis-à-vis des partenaires européens. Donc je ne suis pas sûre que cette période-là, entre l'installation d'un gouvernement à Berlin et les élections en France, que ce soit très très facile pour trouver des positions communes pour avancer.
Claudia Meyer, est-ce qu'on peut s'interroger si la coalition met du temps à trouver sa place? On sait qu'il va y avoir les élections en France, effectivement le 1er janvier c'est la présidence française. Est-ce que ces intermédiaires peuvent un peu plomber l'Europe en fait?
Oui, effectivement, c'est un risque et moi, parfois, j'utilise le mot l'Europe entre en hibernation stratégique en quelque sorte, parce que d'abord, c'est l'Allemagne qui regarde à l'intérieur, qui essaie de trouver une coalition. Et si peut-être nous, l'Allemagne, en sort de cette hibernation en janvier, bah, il y aura la France qui entre avec la campagne électorale. Donc on peut plus ou moins dire, jusqu'en été 22, les deux pays les plus importants sont quasiment concentrés sur leur politique intérieure. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Surtout quand on regarde les affaires européennes, ça continue. Quand on regarde sur le plan international, les États-Unis, la Chine, la Russie, tout ça, ça continue. Et nous, en Europe, on croit pouvoir se permettre de faire comme une pause de la scène internationale. Et ça, je trouve quand même, c'est pas très rassurant. Sur le franco-allemand, j'aimerais juste ajouter, je suis d'accord avec ce que Claire Demesmet disait. Je crois, si on a vraiment un progrès aussi à une force franco-allemande, ça dépend énormément des dossiers. Donc peut-être il y a une avance sur une coalition avec le social-démocrate sur les questions économiques, peut-être, il n'y aura pas beaucoup de progrès sur les dossiers sécurité, défense. Mm-hmm. Parce que là, il y a quand même des énormes différences entre la France et les sociaux-démocrates. Donc je crois qu'il faut voir de plus près sur le progrès qu'on puisse faire.
Ça veut dire qu'on, entre guillemets, on va le dire comme ça, on n'a pas de préféré. C'est-à-dire que sur certains points, on préférerait discuter effectivement avec le SPD, mais enfin sur d'autres, en effet, vous le dites, sur la défense par exemple, on préférerait discuter avec les autres. Donc nous, on est dans une attente qui ressemble à quoi, nous, la France? Dans une espèce de 50-50 qu'est-ce qu'on espère, en fait?
Mais ce que vous espérez, je laisse aux Français, mais je crois que si on regarde maintenant la situation à Berlin, je crois, on a tendance à croire qu'une coalition tricolore, donc sociaux-démocrates, verts, libéraux, semble en ce moment avoir un peu plus de chance, parce que c'est les trois pays qui ont tous les trois gagné des voix comparé aux autres élections. Les sociaux-démocrates sont quand même le parti le plus fort, faut le reconnaître. Les chrétiens-démocrates ont énormément perdu, sont en deuxième position, donc le droit de revendiquer maintenant, de proposer le chancelier, c'est quand même courageux, hein, je dirais. Donc je crois en ce moment, il y a plus de chances qu'on voit une coalition tricolore sociaux-démocrate vers libéraux. Mais encore une fois, la politique allemande a montré il y a 4 ans qu'on peut avoir plein de surprises. Donc je crois qu'il faut encore attendre.
Pierre de Mespé.
Oui, il y a aussi la question de la mutualisation de la dette, qui est un gros point de désaccord entre la France et l'Allemagne depuis des décennies, en fait. Et on a vu avec la pandémie, avec Corona, que les Allemands ont dépassé leur ligne rouge. Mais à mon avis, c'est quelque chose de plutôt conjoncturel. Aujourd'hui, les libéraux sont opposés à cette mutualisation. Les Verts sont favorables. Les sociaux-démocrates regardent, sont plutôt favorables. Mais donc, on a trois partis dans une coalition feu tricolore qui ne sont pas d'accord sur ce sujet-là.
Mais est-ce que justement ça affaiblit le côté allemand du couple franco-allemand, ces désaccords à l'intérieur même des coalitions? Et j'irai même plus loin d'ailleurs avec des deux futurs chanceliers qui ne sont pas non plus les champions de leur propre parti, ce qui peut créer un certain nombre de remous à l'intérieur. Donc est-ce que dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, il y a un affaiblissement du côté allemand du couple franco-allemand?
Je pense automatiquement à un affaiblissement dans la mesure où Angela Merkel avait une autorité politique parce qu'elle a traversé les crises sur la scène européenne dès le début. Alors la crise financière, la crise de l'accueil des réfugiés, aujourd'hui la crise climatique et la crise du coronavirus. Donc elle connaît tout le monde. Et là, on connaît aussi son endurance pour négocier pendant des nuits.
J'allais dire, on verra si les autres ont la même endurance nocturne, en effet.
Oui. Donc elle a une autorité. Cette autorité, elle doit aussi se créer. En même temps, l'Allemagne a quand même une position centrale aujourd'hui. Mmh. Elle a une influence sur l'échiquier européen qui est extrêmement importante.
Et Olaf Scholz était ministre des Finances, il connaît tout ça par cœur. Il a fréquenté les Français pendant X temps, y compris pendant toutes ces négociations-là. Donc là, pour le coup, on est sur un terrain très très connu.
Oui, là, on est plutôt dans la continuité. Exactement.
Patrice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, Patrice.
Eh bien voilà, je voudrais savoir s'il y a de grandes différences selon les alliances de gouvernement au pouvoir en Allemagne qui seraient susceptibles d'influer sur deux sujets majeurs sur le plan européen. Je les prends un par un ou comme vous voulez.
Commencez par le premier, puis le deuxième.
Oui, voilà. Alors la politique migratoire et la question énergétique face au climat. En ce qui concerne la politique migratoire, on sait par exemple que des pays mineurs comme le Liban ou la Jordanie sont capables de venir au secours des réfugiés jusqu'à accueillir le tiers de leur population. En Europe, vous avez des pays comme la Pologne ou l'Europe qui se revendiquent de base chrétienne avec une charité normalement sans bornes, qui sont incapables de venir au secours des pauvres types. L'Allemagne pourrait montrer l'exemple à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'énergie...
Alors attendez, une après l'autre, en effet. D'abord, là-dessus, donc, est-ce qu'on dit, Amalia, hier, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que, on l'a un petit peu évoqué en première heure, est-ce que l'Allemagne montre l'exemple aux autres? Ou est-ce que c'est un peu plus compliqué?
C'est un peu plus compliqué, quand même, je pense.
Pardon, allez-y, pardon, excusez-moi. Et puis, non? Ou si vous voulez vous arrêter là, il n'y a pas de problème. Claudia Mayer, est-ce que c'est... bien plus compliqué pour la... Bah, elles sont en train de se refiler la parole, les filles, là, autour de la table. Claire de Mesmé, c'est en train de revenir
alors,
à vous.
Alors, j'y vais, mais j'ai plus le choix.
Non.
Juste pour dire que les Verts sont très clairs sur cette question en demandant que les compétences en matière migratoire reviennent au niveau de l'Union européenne. Les autres partis sont plutôt mitigés, savent pas trop. Mais en tout cas, il y a cette demande vraiment explicite de la part des Verts. Donc, je pense qu'ils vont, s'ils entrent au gouvernement, ce qui est fort probable, oui, ils vont maintenir cette demande-là. Mais ça se joue pas seulement en franco-allemand, ni seulement au niveau de l'Allemagne. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'opposition sur les questions migratoires au niveau européen, c'est en grande partie entre l'Ouest, mm-hmm, et l'Est, avec notamment des pays des PECO. Donc, il faut une perspective beaucoup plus élargie pour libérer ce dossier.
Patrice, vous aviez une suite de questions rapidement, s'il vous plaît, c'est sur le mix énergétique, c'est ça? Allez-y.
Voilà, c'est ça. Ben, face au climat, on sait que les Allemands ont beaucoup de chemin à faire encore avec la réduction du charbon, mais ils ont montré la voie avec l'abandon du nucléaire, hein, et la multiplication des énergies renouvelables. On les voit souvent, les Allemands, avec les Français côte à côte dans les manifestations contre le nucléaire, contre le bleu, etc. Et peut-être que là, bon, on va les revoir, je pense, le week-end prochain à Metz. C'est là où l'Union européenne peut prendre tout son sens et où l'Allemagne pourrait être une locomotive.
Merci pour votre question, Patrice. Elles ont tiré au sort autour de la table cette fois. C'est sur vous que c'est tombé, Amalia, hier.
Je pense en deux mentalités complètement différentes. Je vois pas qu'on... Vous avez bien dit que vous voyez des manifestations où les Français et les Allemands sont ensemble contre le nucléaire. Ok, ça c'est nouveau pour moi, parce que là, ici, c'est assez fort contre le nucléaire. Mm-hmm. Mais je pensais que la France a depuis toujours... C'est décidé plutôt pour avoir du nucléaire. Et ce qui est intéressant, que maintenant, ça se peut que le débat sur le nucléaire, même en Allemagne, sera réouvert. Il y a probable, parce qu'on sait qu'avec la diminution de CO2.
Oui, des émissions, oui.
Des émissions, il faut quand même avoir un plan B. Hein. Et si on n'a pas ce plan B, et... Même en Allemagne, quand on a beaucoup joué là le premier de la classe en tout ce qui est environnement, on n'a pas trop ce plan B avec les énergies renouvelables non. Alors, plus. Donc,
est-ce qu'on peut faire un point pour savoir effectivement où il en est ce mix énergétique? En effet, donc pour rappeler aux gens qui nous écoutent, en 2011, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. On sait ce que ça veut dire pour le charbon derrière, qui est en diminution mais pas assez. Le gaz en augmentation. On a parlé tout à l'heure du fameux pipeline. Nord Stream 2. En termes d'énergie renouvelable, ils sont plus forts que nous, mais en même temps pas suffisamment.
Exactement.
Pour pallier l'intégralité des besoins. Donc où on en est, si comme les Verts le réclament, on sort du charbon en 2030, qu'est-ce qui se passe en Allemagne en matière énergétique? Claire de Mesmé.
Ben, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de sortir du charbon de toute façon. Donc là, la date, elle est 2038. 2038, c'est la date oui, officielle, la date attendue. Et les Verts demandent d'avancer et de passer à 2030. Donc les autres partis sont plutôt sur 38. Personnellement, je pense pas que si les Verts entrent au gouvernement fédéral, on arrive à revenir sur la sortie du nucléaire qui avait été décidée. Je sais bien que c'est une discussion qui a été notamment portée par les chrétiens démocrates. Je vois mal comment ça peut passer dans une coalition feu tricolore. Donc oui, la question se pose, développer le renouvelable évidemment, la question du gaz, donc la question de la relation à la Russie. Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet qui est explosif.
Amalia Meyer, la question revient souvent chez nous sur la différence entre nos verts et les verts allemands. Il y a même une question sur franceinter.fr qui vous demande si un vert allemand, au fond, serait membre en France d'Europe Écologie Les Verts.
Non, je pense pas, parce que là, comme Danny Cohn-Bendit a bien dit, ils sont tous des radicaux en France. Donc, je pense beaucoup...
Des gens qui vont être contents de vous entendre en ce moment en France.
Le Parti Vert est aussi, quand même, il a bien montré... plutôt des réalistes, c'est des réalos comme on dit en Allemagne. Uh-huh. Donc ils sont beaucoup plus à gauche en France et ils sont beaucoup plus, on peut dire, des utopistes, des idéologistes. Et en France, en Allemagne, ils sont quand même pendant les derniers 40 ans, ils ont fait l'élection de réal politique, pas mal.
Et ils gouvernent aussi, notamment dans une région, Claudia Mayer, là-dessus.
Oui, je crois ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Verts ont commencé dans les années 80 vraiment comme un parti anti-système. Donc ils étaient, par exemple, anti-OTAN, anti-États-Unis, anti-tout, anti-système quoi. Voilà, vraiment anti-tout. Et ils ont quand même fait un long chemin, surtout en passant par le gouvernement fédéral 98-2004. Quand ils ont, par exemple, eu le ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, très connu, aussi très connu, parce qu'il a amené l'Allemagne dans la première guerre, participation à la guerre au Kosovo. Et ça, c'était une expérience très intensive. Et ce qui est intéressant maintenant, quand on regarde les Verts, on peut voir qu'ils sont restés fidèles à quelques convictions de leurs premières années. Ils sont très attachés aux droits de l'homme, ils sont très attachés au désarmement. Mais ils ont changé leur position sur d'autres domaines. Donc, par exemple, ils acceptent, dans mon domaine sécurité et défense, ils acceptent l'OTAN, ils acceptent les forces armées, ils acceptent en quelque sorte les États-Unis. Annalena Baerbock, elle a dit « Je suis une 37-36 convaincue ». Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un changement, une sorte de pragmatisme qui passait par la participation au pouvoir, mais une fidélité quand même à quelques idées clés, dont une très forte conviction européenne. Et ça, c'est vraiment dans leur DNA, cette conviction européenne, internationale. On commence au niveau national, mais c'est l'international européen qui compte. Et je crois, parlant du franco-allemand, comme on l'a fait avant, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les relations franco-allemandes et aussi pour l'Europe, parce qu'il y a, c'est pas seulement une politique affichée, il y a une vraie conviction de l'international et aussi des valeurs. Donc quand les Verts parlent de la Chine, parlent de la Russie, parlent aussi de l'Hongrie ou de la Pologne ou de l'extrême droite en Allemagne, ils n'ont jamais vraiment bougé. Ils étaient très clairs sur ces questions-là.
Oui, Claire. Allez-y, Claire. Merci. Ils ont aussi une position plus clivante que d'autres partis sur les questions européennes. Quand justement ils se positionnent très très clairement sur les questions de l'état de droit en Hongrie, en Pologne, ils n'ont pas la position d'une Angela Merkel qui, elle, a essayé au contraire de préserver la cohésion, d'avoir une Allemagne qui était amie avec tout le monde. Le grand terme, le grand concept, c'est celui de Zusammenhalt, donc de garder vraiment la cohésion du tout de l'Union européenne. Avec une position plus marquée sur différents sujets, c'est beaucoup moins facile.
Est-ce que ça veut dire que typiquement là-dessus, en étant dans la coalition et au pouvoir, les Verts vont devoir revoir un certain nombre de leurs positions ou pas ?
Au pouvoir, on est de toute façon automatiquement plus pragmatique. C'est aussi ce que disait Claudia Mayer sur l'intervention au Kosovo avec Joschka Fischer. Ça, personne ne l'aurait attendu. Mais je pense que de toute façon, ils resteront très pro-européens. Mais comme, en fait, l'ensemble des partis politiques allemands, à quelques exceptions près, on a quand même un paysage politique allemand qui est très profondément européen.
Claudia Mayer, avant de retourner au standard.
Oui, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que Claire de Mesmé disait. Je crois qu'il faut vraiment comprendre, quand on regarde l'Allemagne de l'extérieur, qu'il y a un double niveau de consensus et de compromis dans le système allemand. On aura une coalition de trois partis qui doit se mettre d'accord sur un programme. Et ça peuvent être des positions contraires, mais il faut qu'ils se mettent d'accord dans le traité de coalition. Ça, c'est le premier niveau de consensus et compromis. Le deuxième, quand on regarde la politique étrangère dont on parlait, l'Europe, la politique européenne sera faite par des ministères différents. Oui. Donc les affaires étrangères, la chancellerie, les finances, enfin plein de ministères qui seront dans les mains des partis différents. Donc deuxième étape de consensus et de compromis. Donc vraiment ces mots de compromis et consensus sont des mots clés pour comprendre le système allemand. On peut voir ça d'une manière négative parce que du coup ils sont un peu longs et ils n'ont pas des positions claires. Mais on peut dire aussi il y a une certaine continuité dans les politiques. Donc c'est du bien et c'est du mauvais. Ça va dans les deux côtés, je dirais.
Et c'est important ce que vous dites pour qu'on comprenne bien comment ça marche. Effectivement, on se met d'accord sur une plateforme et ensuite on décide des postes ministériels et comment ils seront distribués. Amalia Hier qui lève le doigt. Vois à peine dans le noir, Amalia, mais allez-y.
Je peux juste ajouter que déjà là, les Verts gouvernent dans 11 Länder maintenant. Donc on a 16 Länder en Allemagne et donc c'est pour ça aussi ils ont vraiment l'habitude de gouverner. Hein. Ce n'est pas un parti de opposition depuis toujours.
Avant de retourner,
arriver au centre.
Absolument. Avant de retourner au standard, je voudrais quand même, voilà, ça s'appelle un blanc à la radio, mais c'est quand même tellement agréable de voir qu'on est en train de filer gentiment au fil de l'eau pour retourner jusqu'à notre embarcadère dans quasiment le noir parce qu'autour de nous sont allumés quelques bureaux ici et là.
Et sinon, Berlin, globalement, n'est pas une ville très éclairée.
Non,
on parle
c'est
de
vrai.
Pollution lumineuse. C'est la plus grande capitale européenne depuis le Brexit. Mais c'est une capitale où on peut voir les étoiles le soir.
Voilà, bah écoutez, on pourrait presque en profiter s'il n'y avait pas autant de nuages. En tout cas, ce petit retour vers l'embarcadère dans le silence du fil de l'eau est bien agréable. J'espère que vous en profitez tout autant que nous. Et j'en profite aussi pour saluer Laurent. Bonsoir Laurent.
Guten Abend. Bonsoir.
Allez,
j'ai eu le plaisir de travailler 6 ans en Bavière. J'étais toujours très surpris de la comparaison entre la France et l'Allemagne, où tout allait dans le sens de l'Allemagne. On ne parlait pas des choses qu'on voit aujourd'hui sur les infrastructures, et notamment sur les différences sociales. C'est beaucoup plus grand qu'en France, il y a des gens aussi très pauvres en Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui peut influer la composition et la politique de la coalition ?
La place du social, qui veut répondre, Ludovic ?
Oui, ça a été un grand sujet de la campagne parce que les inégalités ont fortement augmenté en Allemagne. C'est un pays où il y a, pour le dire vite, de plus en plus de pauvres et aussi de plus en plus de riches. Donc il y a une proposition qui est celle du candidat Olaf Scholz, qui était un peu la proposition avec laquelle...
Donc SPD, Olaf Scholz.
SPD, oui, pardon. Celui qui a terminé donc en tête et qui avançait avec presque cette seule proposition en bandoulière, si j'ose dire, pour montrer son côté social et rougir entre guillemets un tout petit peu sa personnalité, sachant que c'est pas un rouge à l'intérieur des sociaux-démocrates. Mais bref, c'est le SMIC, l'augmentation du SMIC de 9,70 € en ce moment à 12 € de l'heure, ce qui est une augmentation conséquente. Le salaire minimum, ça a été créé grâce aux sociaux-démocrates sous le gouvernement Merkel en 2014, donc c'est quelque chose qui est assez récent en Allemagne. Normalement, c'est des choses qui se négocient au sein des entreprises entre partenaires sociaux, et là c'est une avancée, c'est-à-dire c'est l'État qui dit non, on accélère et on essaie comme ça de changer la vie de 10 millions, je crois, c'est la proposition de Scholz, de 10 millions d'Allemands, ce qui est considérable. Il y a aussi à faire sur les retraites, parce qu'il y a beaucoup de retraités pauvres, de plus en plus de retraités, donc on a dit une population vieillissante, donc ces retraites il va falloir les financer parce qu'on manque d'actifs. Bref, ces retraites là, il y a aussi des propositions pour les augmenter. Je pense qu'il y a vraiment à faire dans le Zusammenhalt, comme l'expression qu'utilisait Claire de Mesmer. C'est vraiment important aussi en Allemagne. Je crois que c'est une question de plus en plus prégnante, parce qu'on l'a vu aussi à la faveur de la pandémie de coronavirus, qu'il y a de plus en plus de divisions dans le pays.
Sur le SMIC à 12 €, par exemple, typiquement, est-ce que ça fait partie dans une coalition de quelque chose qui pourrait être accepté facilement par les libéraux ou pas ?
Non. La réponse est relativement simple. Non, parce que les libéraux ont fait campagne pour baisser les charges, pour baisser les impôts. Donc, évidemment, ça va dans un sens différent. Mais c'est typiquement le genre de sujet dont on discute pendant justement les fameuses négociations de coalition. Donc, on met tous les sujets sur la table, on voit qui peut faire des compromis ici, là, et à la fin, on aboutit à un texte qui est en fait un traité que tout le monde signe à la fin, qui est rendu public, sur lequel s'engage le futur gouvernement et sur lequel s'engagent les partis qui font partie du gouvernement.
Ça peut être sur des histoires de date, par exemple,
ouais,
parce que Scholz a dit son SMIC à 12 €, il le veut dès son entrée, dès 2022, disons. Bon, bah, le FDP peut peut-être négocier 2025, ouais. Vous voyez, ce genre de choses.
Est-ce que ça veut dire là, maintenant, on disait tout à l'heure en début de première heure que, contrairement à d'habitude, le FDP et les Verts étaient déjà en train de négocier ensemble pour présenter ensuite quelque chose au parti, puisqu'ils sont en position de force. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont, eux, arriver avec leur propre plateforme en disant, voilà, nous, on a réussi à se mettre d'accord sur ça et sur ça, voici à quoi ressemble notre plateforme, à prendre ou à laisser. Est-ce que ça peut se passer comme ça ? Qui veut répondre ? Allez-y, Claire de Mesmer.
Non, je ne pense pas que ça se passe comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est une histoire de négociation entre les différents partis. En revanche, ils vont essayer de voir s'ils arrivent à dépasser leurs désaccords fondamentaux. Parce que s'ils n'arrivent pas à dépasser leurs désaccords, alors ça ne sert à rien d'aller vers les autres partis. Il y a eu un échec de négociation de coalition il y a 4 ans,
oui, en
2017, notamment parce que le FDP et les Verts n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et ça a vraiment marqué le paysage politique, ça a marqué les discussions. Donc je pense qu'ils veulent absolument éviter de retomber dans la même situation, parce que c'est un échec, évidemment. Donc là, on procède de façon plutôt transparente par par négociation, par discussion avant d'entrer en négociation.
Amélia Hier, est-ce que de toute façon, les Verts notamment auraient le moindre intérêt à claquer la porte en disant on n'y arrive pas, ça marche pas, donc on retourne dans l'opposition. Ont-ils le moindre intérêt à faire ça ?
Non, je pense pas. Non, ils sont vraiment là pour gouverner et maintenant depuis Habeck et Annalena Baerbock, les deux présidents de parti, sont en pouvoir depuis 2018. Ils ont dit que ça. On veut gouverner. Maintenant, c'est le temps et aussi l'esprit de temps dit pour qu'ils gouvernent vraiment parce que le climat c'est vraiment un sujet en Allemagne.
Yann est avec nous au standard. Bonsoir Yann.
Bonjour.
On vous écoute Yann.
Oui, bonjour. Allô.
Allez-y, on vous entend.
Bonjour. J'avais juste une question toute simple. C'est si justement les partis ne se mettent pas d'accord, est-ce qu'il peut y avoir ils peuvent revoter dans quelques mois et dire il n'y a aucun accord, on revote.
Est-ce que ça se passe comme ça en Allemagne? Qui veut répondre quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on décide finalement de revoter? Ça s'est déjà vu, ça existe. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que dit la Constitution? Qui veut répondre à ça? Claudia ou Cyril? Cyril qui était au fond du bateau et qui vient de réapparaître.
Non mais au bout du compte, ça pourrait arriver si aucune autre configuration n'aboutissait. Je crois qu'en 2017, ça avait duré tellement longtemps, ces négociations qui avaient d'abord échoué avec les Verts, les Libéraux, puis ensuite on discutait d'une nouvelle grande coalition, il avait été envisagé l'éventualité d'un retour aux urnes. Enfin là, il faudrait pour cela que les premières options de coalition dont on a parlé échouent, mais aussi qu'une éventuelle nouvelle grande coalition échoue. Et parce que cette nouvelle grande coalition, ça reste malgré tout une option, sauf qu'elle serait dirigée probablement par Olaf Scholz et par le SPD cette fois-ci. Mais les conservateurs et les sociodémocrates pourraient très bien repartir, même si personne ne le souhaite pour l'instant. Mais déjà en 2017, ils disaient qu'ils ne voulaient plus faire de nouvelle grande coalition et ils l'ont fait malgré tout. Donc il y a quand même beaucoup d'options avant d'arriver à l'éventualité d'un nouveau scrutin.
Et est-ce qu'on peut envisager que le président de la République, devant le palais duquel nous venons de repasser, siffle à un moment à la fin de la partie en disant « Dis donc, il va falloir vous mettre d'accord ». Alors, on sait bien que son rôle n'est qu'institutionnel, mais en 2017, on se souvient qu'il n'avait pas exactement sifflé la fin de la partie, mais enfin, c'est lui qui avait un peu poussé, notamment d'ailleurs pour dire au SPD, c'est bien, il va falloir que vous vous entendiez parce que ça dure maintenant trop longtemps. Est-ce qu'on peut envisager que quelque chose dans ce goût-là se passe ? Claire de Mesmé.
Oui, parce que le président de la République, il a un rôle de caution morale. Donc, s'il voit que ça traîne, s'il voit qu'il ne se passe plus rien et que l'Allemagne a besoin d'un gouvernement, il peut faire appel à la responsabilité des partis. Mais il faut bien voir aussi que l'Allemagne, c'est un pays dans lequel on prend le temps. Donc, je pense qu'on arrivera avant 5 mois. Donc plus rapidement que la dernière fois, quand même, à arriver à trouver un accord.
Ils se sont engagés avant Noël, c'est ce qu'ils ont promis.
Et puis on a des partis qui ont envie de gouverner, qui ont vraiment très envie. Les Verts, les Libéraux, le SP, ils ont envie de gouverner. Donc je pense qu'ils vont trouver un accord.
Claudia Meyer.
Oui, je suis entièrement d'accord. Hier, quand on a eu les premiers débats après les résultats, tous les partis ont insisté sur le fait qu'ils veulent trouver une solution vite, avant Noël. Et je crois aussi la grande différence vers 2017, c'est que les Verts et les Libéraux ont hâte. Ils sont impatients de gouverner. Donc je crois qu'il y a une sens de responsabilité, mais aussi une très forte volonté de trouver une solution. Et ça, on a pu voir aussi hier lors des débats, quand les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates ont fait tellement d'offres aux petits partis pour leur plaire, pour
peut-être
en fait entrer en coalition.
Peut-être que ça donnera un accord qui manquera d'ambition, peut-être que ça donnera un accord qui décevra une bonne partie des électeurs, parce qu'en plus à 3 partis, vous vous rendez compte, ce que ça oblige comme compromis, forcément encore plus qu'à 2.
Mais en même temps, le traité de coalition va être soumis au vote des partis. Donc ceux qui font le traité de coalition ne peuvent pas se permettre de trop brader des sujets.
Notamment les plus de 100 000 adhérents verts qui vont se prononcer, effectivement.
Donc, on verra.
Alors qu'on vient d'accoster, d'ailleurs. Peut-être que vous avez entendu une espèce de boum, c'est normal. C'est qu'on vient d'accoster, un petit coup de moteur. C'est normal, on vient de s'arrêter, de revenir à notre point de départ. Mais nous, on n'en a pas fini. On a entendu, c'est vers vous que je me tourne, Ludovic. On a beaucoup entendu cet après-midi, au moment où chacun des chefs de parti a pris la parole. On a bien compris qu'au sein de la CDU, notamment, ça allait discuter extrêmement fermement, que personne n'était réellement d'accord, que surtout est revenu sur le tapis le fait que le candidat n'était pas le bon. Est-ce qu'on peut imaginer, là aussi, une CDU qui dit, de toute façon, notre candidat n'est pas le bon, alors ils ne le diront pas comme ça, mais on jette l'éponge plus vite, en fait, qu'on ne l'aurait fait à d'autres moments.
Peut-être qu'ils sont capables, effectivement, de l'intérieur, et puis aussi depuis la Bavière, depuis le parti frère, la CSU, emmené par Markus Söder, qui voulait être candidat, qui voulait faire cette campagne au nom de l'Union, mais la CDU ne lui en a pas donné le droit. Il en veut beaucoup à Armin Laschet. Donc, tous ces ressentiments, aujourd'hui, tous ces élus qui ont perdu leur siège. Il y a des, c'est une déculottée, hein. Enfin, faut regarder. Et puis c'est des gens qui étaient installés depuis longtemps, très longtemps, des gens qu'on pensait très puissants. Donc c'est beaucoup de têtes d'affiche. Voilà. Donc c'est quand même une grande partie du parti là qui prend une énorme claque. Et ces gens-là forcément sont aussi influents au sein du parti, dans leur fédération, dans leur land. Ils vont en vouloir. Armin Laschet, ils vont lui dire, tu es peut-être gentil, mais tu vas décrocher, voilà, de ce poste de direction, et puis tu vas retourner en Rhénanie du Nord, Westphalie, diriger la région. Non, c'est, je pense qu'il y a vraiment une, je pense que c'est, il a eu très chaud aujourd'hui au comité exécutif, les discussions étaient très très longues, il est arrivé en conférence de presse, il avait un visage très fatigué, on sentait que il s'en était pris vraiment plein la trombine, enfin pardon, mais c'était vraiment et puis il l'a dit, il s'en est pas caché d'ailleurs, et puis publiquement ça a été dit par deux ministres présidents importants de Saxe et de Saxe-Anhalt qui lui ont dit, t'as pas fait une bonne campagne.
En creux, Ludovic, pardon, est-ce que ça dit, allons plutôt faire une cure d'opposition? Est-ce que en creux, ça dit ça?
C'est ça. Pour le Saxon, par exemple, je pense que, comme lui, il est habitué à avoir une opposition en plus très forte à l'extrême droite, etc., il se dit, faut peut-être qu'on redevienne aussi un parti, qui tienne un autre discours, qui ait l'air un peu plus offensif aussi, parce que sinon, ça va être l'hémorragie, au niveau des électeurs. En tout cas, voilà. Après, ça dépend des endroits où on se trouve en Allemagne. Mais pour cet homme-là, je pense que c'est une de ses préoccupations.
Mais
allez-y.
Pour un parti qui gouverne depuis une éternité, ça semble facile à dire, ça semble logique, mais c'est extrêmement
c'est un déchirement. C'est un pansement qu'on enlève sans ménagement.
C'est bon pour la démocratie, on va dire.
Voilà. Pascal est avec nous au standard. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir. En brève question. Le traditionnel compromis allemand est-il toujours d'actualité?
Est-ce que le traditionnel compromis, de ce que j'ai entendu de cette discussion qu'on a eue là tous autour de la table, oui, le compromis allemand existe toujours et n'est pas mort. Qui veut répondre? C'est toujours vous qui êtes désigné comme responsable et comme.
Il existe partout, tout le temps. Enfin, on a parlé des Verts, par exemple, qui ont été à l'école du compromis. Ils ont appris. On parlait de réalisme, de pragmatisme. C'est des mots qu'on entend à longueur de temps.
Mais le compromis est une obligation pour le compromis est une obligation pour les partis politiques, puisque c'est la grande différence avec un système comme celui qu'on connaît France. En France. On ne peut pas gouverner si on ne se met pas autour de la même table pour former une coalition à plusieurs partis qui n'ont pas le même programme, qui n'ont pas la même vision de l'avenir du pays, mais qui vont devoir à un moment,
Ça se fait dans tous les échelons de la société.
Et ça n'est pas propre à la politique.
Voilà. Ça se fait à tous les niveaux, dans les entreprises. C'est vraiment culturel.
Ouais, je crois aussi que c'est une grande différence culturelle qu'on cherche aussi dans les débats en regardant la culture de grève en France et en Allemagne. On a beaucoup plus une culture de compromis ou de chercher un peu le consensus qu'on voit, comme vous avez dit, sur tous les échelons, que ça soit au niveau des Länder, mais aussi fédéral. Donc je crois que le compromis est bien là. La question qu'il faut se poser quand même, est-ce que cette culture de compromis est un frein ou un instrument qui fait avancer. Et là, je crois, dans le passé, on n'était pas toujours sûr que c'est pas plutôt devenu un frein. Et comment, en fait, le changer, que ça devient à nouveau quelque chose de dynamique qui nous permet d'avancer. Mais en gros, ça reste, c'est un élément clé.
Pardon, s'il n'y a pas une question sur franceinter.fr, s'il n'y a pas de chancelier avant Noël, est-ce que c'est exclusivement avec Angela Merkel que tous les autres pays européens discutent, ou peuvent-ils entamer d'autres discussions avec le SPD ou avec la CDU avant qu'on sache exactement qui est chancelier? Est-ce qu'on a le droit de se voir? Est-ce qu'on a le droit de se parler? Ou ça ne se fait pas du tout?
Si, on a le droit de se rendre visite, en ami bien sûr, on a le droit de se parler. Cela étant, s'il n'y a pas de gouvernement fédéral, de nouveau gouvernement fédéral avant un certain temps, eh bien en effet, Angela Merkel restera de toute façon chancelière, elle continuera à traiter les affaires courantes et elle sera l'interlocutrice des chefs d'État et de gouvernement.
La préparation de la présidence française par exemple, ça va donc se faire logiquement avec Angela Merkel, parce qu'on imagine dans ces cas-là qu'il y a beaucoup de discussions qui se passent évidemment entre la France et l'Allemagne. Donc ça va se passer forcément avec Angela Merkel. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces discussions-là ? Est-ce que ensuite, pardon de poser une question très naïve, est-ce que ensuite, du coup, bah, elle va voir le prochain chancelier en disant voilà où en sont les discussions au sujet de la présidence française ? Comment ça se passe très, très concrètement ? Est-ce que quelqu'un peut répondre ?
Bah, avec Angela Merkel, mais aussi avec le ministère des Affaires étrangères. Il ne faut pas oublier que oui, mais le ministère des Affaires étrangères est aujourd'hui dirigé par les sociaux-démocrates. Mmh. Donc, il y a aussi une forme de continuité.
Avec un secrétaire d'État en charge de l'Europe, Michael Roth, qui est, je crois, le même depuis 13 ans.
Et oui. Qui a été réélu avec un très bon score.
Donc l'Allemagne, c'est en termes de continuité, entre les 16 ans d'Angela Merkel, un secrétaire d'État, c'est-à-dire une personne qui s'adresse à tous les Européens au nom de l'Allemagne, et qui est le même depuis 13 ans, aller trouver ça ailleurs en Europe, c'est incomparable.
Et de deux parties différentes.
Ouais. Ouais. Et j'ajouterais aussi, il y a, même si on a deux options de coalition là, il y a quand même une très forte continuité sur beaucoup de sujets dans l'Allemagne. Donc il n'y a pas de... Nous, je crois que vous l'aviez dit au début, on n'est pas révolution en Allemagne, on est plutôt évolution.
Vous ne renversez pas la table.
Pas trop.
Et puis l'Allemagne préside le G7 en 2022 toute l'année. Donc ils ont aussi, eux, il y a l'agenda évidemment, ils ont à cœur de faire le franco-allemand et d'avancer sur des dossiers avec Emmanuel Macron, mais ils ont aussi à cœur de faire une présidence du G7 qui soit convenable. Donc il faut qu'il soit prêt avant décembre.
La gestion marchera,
c'est sûr.
Mais pas les grandes décisions stratégiques. Mais on est certainement très très bien géré. Enfin, l'administration marchera sans problème.
Un peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire, cette question qui sera probablement la dernière. Est-ce que le SPD est autant attaché à la protection américaine que l'était Angela Merkel ? Réagirait-il différemment face, par exemple, à la crise des sous-marins récemment ? Ça, c'est la spécialiste de défense qui va répondre à cette question, Claudia Mayor.
Je crois en France, on a été un peu irrité par la lente réaction de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a mis un peu de temps pour réagir.
L'Europe a mis beaucoup de temps, en fait, l'Allemagne en particulier.
Oui, mais l'Europe a réagi. Donc la présidente de la Commission von der Leyen et le ministre des Affaires étrangères, si je peux dire, Borrell, ils ont pris des positions très très fortes en faveur de la France. L'Allemagne l'a fait aussi, mais elle l'a fait un peu tardivement.
Il y a une semaine.
Ce qui est
un peu plus d'une semaine.
Ouais, parce qu'en fait, cette affaire de sous-marin est juste un petit volet. La question derrière, c'est comment on va affronter la Chine ? Est-ce qu'on va le faire avec les États-Unis ou pas ? Ou est-ce que les États-Unis veulent le faire avec nous ou sans nous ? Et en fait, cette question comment on va faire affronter la Chine, ça pose toutes les questions que l'Allemagne n'a pas envie de répondre. Mmh. Parce qu'on avait l'impression avec AUKUS, avec cette nouvelle alliance, qu'il faut choisir entre la France et les États-Unis. Les États-Unis, dans le domaine de la défense, qu'on considère comme notre assurance vie. Donc on n'a pas envie de décider et on n'a pas envie de quitter un peu l'Europe où on se sent bien à l'aise vers l'Indo-Pacifique, loin et compliqué, avec des alliances qui changent. Mais je crois, grosso modo, aussi le SPD prendra cette position.
Et ce sera le mot de la fin. La suite, ça se passera peut-être autour de Noël. Et comme j'aime à le dire, on n'a jamais été aussi près de Noël. Je voudrais vraiment vous remercier de cette petite balade avec nous, vraiment sur l'âge près, et de ces 2 heures que vous avez passées toutes les trois avec nous. Merci aussi à vous, évidemment, Cyril et Ludovic. Je voudrais remercier très très fort notre ami Vladimir qui nous a conduit grâce à son petit bateau La Sylvia. Merci à Benoît Jégou pour la balade et pour l'organisation. Merci à Georges Thau, à Lucien Lefebvre, à Léo Prangère pour la technique. Merci à Tristan Gratalon qui est à la réalisation. La programmation est signée à Mélissa Delman. Merci à Nathalie Poitvin et Marie-Claude Pinson. Il en faut du monde sur un petit bateau comme ça. Bonne soirée à tous.